Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante, et oui, en ce jeudi 29 septembre. On vous retrouve comme chaque soir sur la radio de la diversité. Et ce soir, justement, on parlera de quoi ce jeudi soir? On va parler tout spécialement d'un joueur, et oui, qui fait tant de débats, justement, pour ou contre le retour de Delors avec la sélection algérienne. Les pépites du football, on reviendra avec notre consultant Abdel, comme chaque jeudi sur l'antenne de Beurre FM. On parlera aussi de cette dynamique pour les clubs français avant le retour sur cette fameuse scène européenne. Rien de plus simple pour réagir. Vous nous contactez, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. On vous fera passer sur l'antenne de Beurre FM. Le débat du jour, on le rappelle, nos joueurs sont-ils fatigués avant ce fameux mondial 2022 au Qatar, qui fait tant par ce mondial 2022. On vous en dit pas plus, on verra tout cela avec toute l'équipe de Time Sport. Aussi, on vous fait remporter un magnifique ouvrage aux éditions Solar, Ensemble contre le cancer du sein. Voilà, hier on en a parlé avec toute l'équipe de Time Sport, et on n'oublie pas, ce soir on accueille vraiment, on a une team de champions du monde ce soir. On accueille Arthur Guérin-Bouéry qui est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Un petit clin d'œil à toutes les auditrices et les auditeurs fans de plongée, du grand bleu, d'apnée. On va en parler avec lui, ça c'est promis. Allez, de suite, on va commencer cette émission avec toute l'équipe en la présentant.
Time Sport. Time Sport. Les pourparlers.
Allez, ce soir, on retrouve avec moi autour de la table pour m'accompagner Vivien. Comment ça va, Vivien?
Ça va super. C'est bien d'avoir un champion. Je pensais qu'on aurait Alice Modolo, mais on a Arthur.
Quand même, voilà, Arthur. C'est... On va en parler avec Arthur. Laisse-le tranquille. Il est déjà avec nous.
Bilal,
on va
le laisser. Bilal, excuse-moi, tu me dis Vivien?
Oui, Vivien.
Vivien Bobonguer?
Oui, Bobonguer. Non, Boy Bonga, il est là
de
avec
Bornia,
nous.
Tu es Vivien, c'est lui.
De Bornia. Oui, un petit clin d'œil à tout le monde.
Que... Aux dernières nouvelles.
Oui, c'est Yacine qui est avec nous aussi. Bonsoir Yacine.
Il était porté disparu.
Lui aussi était en arrière. Il n'est pas porté disparu. Il a eu un empêchement la semaine dernière. Il n'était pas avec nous. Il a eu un empêchement la semaine dernière.
Il a eu un empêchement ?
Oui, il n'a pas pu venir. Pris par le travail.
C'est pour des raisons professionnelles.
Oui, professionnelles, vraiment. Toujours professionnelles.
C'est le plus important.
C'est ça.
On travaille 24 heures sur 24. C'est Léon Apné, ça va.
Ça va, bon, arrête, Yacine. Rafik est là. Comment ça va, Rafik?
Bonsoir, ça va très bien. Toujours un plaisir d'être parmi la belle équipe. Donc,
oui. Voilà. Rafik, on dirait qu'on est sur une autre émission quand on lui donne la parole. C'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. C'était justement un certain Miloud qui me disait ça. Oui, ça le fait sourire. Oui, Miloud.
C'est son cousin de Sitif.
Non.
C'est donc son cousin Sétif, je te confirme.
Où se trouve Sétif? Pour l'inviter.
Sétif,
allez, un petit cours, Yacine.
C'est dans le. On va dire, c'est le début de l'Est algérien.
Voilà. Les Aurès.
Pas
c'est ça,
Aurès,
non?
Non, c'est la Basse-Kabylie, c'est la limite de la Basse-Kabylie. Et c'est là, sur ce qu'on appelait, anciennement appelé, pendant Rome, ça s'appelait Sétifus. Et c'est là, c'est les hauts plateaux de Sétif, c'est là où on avait fait la première expérimentation du blé. Voilà, c'est pour ça que cette région est très connue pour produire pratiquement le meilleur blé du monde.
En altitude.
Voilà.
Non, on est au plateau.
C'est au plateau, bien sûr.
Il faut savoir que le blé, les meilleures surfaces pour cultiver du blé, c'est lié au plateau. Ça, il faut le savoir.
Abdel est avec nous. Comment ça va, Abdel?
Dans les années 60, le quintal algérien,
on l'a lancé. Voilà.
Russe, canadien.
Les auditeurs vont aimer ça. Oui, le petit cours de culture, géographie avec Abdel aussi. Comment ça va, Abdel?
Ça va, Bilal. Bonsoir à toutes et à tous.
Tu vas bien?
Content d'être là. Ouais, très bien, très bien. En forme.
Justement, en forme. Eh ben, on l'espère, Abdel.
Comme un jeudi, parce que c'est la chronique.
Eh oui, comme un jeudi. On va voir avec cette fameuse chronique, ces fameux pépites. Du football avec ces jeunes joueurs, ce vivier francilien, mais pas que francilien.
À force d'écouter Abdel, on va finir par retrouver plusieurs pépites.
Justement, il nous les balance, lui, au moins, les pépites.
C'est le but.
Il y en a qui les gardent, mais lui, il les balance aux yeux de tout le monde, quoi.
C'est très bien.
C'est très bien. Comme la dernière fois.
Parce que des fois, les pépites aussi, ça veut dire les pépites de chocolat.
Les pépites de chocolat, c'est assez bon aussi, les pépites en chocolat. Ça, c'est vrai. Voilà, ça fait sourire Vivien et aussi Rafik. En tout cas, on t'a aperçu du côté de Montfermeil. Bon, on t'a plus revu après la fin du match. On sait plus où tu étais. Heureusement qu'Abdel était là pour m'indiquer la sorcière.
Non, parce que moi, je suis une pépite. J'ai disparu comme la pépite de chocolat.
Non, par contre, il faudrait que nos auditeurs voient une vidéo de Yacine avec beaucoup de gestes techniques. Et là, je blague pas.
Bien sûr.
Il y a une très, très belle vidéo sur YouTube. Ouais, c'est...
Alors, je peut-être une info. Avant de commencer, Yacine.
Il n'y
a pas d'info. Abdel.
Non, on attend que ça commence et que tu présentes l'invité.
Ça commence. Arthur Guérin-Bouéry avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Comment ça va?
Ça va nickel, merci.
J'espère qu'il est à l'aise. Bienvenue. Super. Ouais, bienvenue, c'est tranquille. Hein, c'est Yacine. Hein. Ouais, il fait toujours comme ça. Hein, ouais. Fait des
moi aussi,
j'ai
capté. Hein.
Ouais, il a capté lui aussi. T'inquiète pas, il a capté tout le monde. Avant, ouais. Il va plus vite que la musique. Allez, justement, on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission. C'est vrai que Yacine, on a tendance à parler de ce sujet sur l'antenne de Beurre FM. Et c'est vrai, pour ou contre de l'or. En tout cas, on a monsieur Fournier. On entend parler de ce monsieur depuis 2-3 jours et qui enfonce aussi Andy Delors. International algérien, on le rappelle, et aussi pour son retour en équipe nationale, et oui, avec ce sélectionneur qui n'est autre que Djamel Belmadi. Allez, Rafik, un petit mot concernant Andy Delors.
Andy Delors, pour moi, il a pas sa place en sélection.
Et pourquoi il a pas sa place en sélection, selon toi?
Tu fais un choix, clairement. Tu dis, en fait, la sélection, c'est pas à la carte, c'est pas toi qui choisis, en fait. Donc, c'est déjà un. Tu arrives, tu as des joueurs qui étaient là dans une aventure, qui font des matchs un peu, entre guillemets, bourbiers aux quatre coins du continent pour qualifier l'équipe nationale à la CAN. Toi, clairement, tu fais le choix, tu te dis, bah, j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Après, tu reviens, je sais pas quel billet, tu essayes de te raccrocher le wagon quand ça t'arrange. À un moment donné, c'est pas toi qui es maître du tempo et c'est pas à la carte, en fait, la sélection. Donc tu la mets de côté, ben, tu mets de côté, tu assumes.
Il nous a fait un peu une Rabiot, quoi. Non ?
Ouais, ouf, ouais, Rabiot, non. Ouais, mais non,
comparé.
C'est encore plus parce que déjà, quand la vidéo entre guillemets d'excuses qu'il a fait, en plus, il manque de respect à son ancien club qui l'a mis un peu en lumière en disant ben, je monte dans un club avec plus d'ambition et tout ça. Donc pour moi, c'est sur tout le tableau, il a tout faux, en fait.
Ouais. Allez, Abdel, Vivien et aussi Yacine, on vous écoute.
Oui, je partage quand même l'avis de Rafik. Pour moi, alors, à l'instant T, il ne doit pas revenir en équipe nationale. C'est vrai que quand même Djamel Belmadi a toujours fait en sorte de tenir enfin, c'est lui qui tient la sélection. Et là, le voir accepter cette décision, je suis quand même dans l'incompréhension. Après, voilà, pour ce qui est d'Andy Delors, au début, il est venu en sélection, on va dire, un peu par chance, parce que il aurait pas dû être sélectionné à cette Coupe d'Afrique. Et on va se dire, à l'heure actuelle, que c'est quelqu'un qui a profité du système et qui, il y a combien de joueurs en Afrique qui se sont battus, comme le dit Rafik, dans les quatre coins du continent et qui ont eu des très grandes carrières internationales et qui n'ont jamais eu de titre avec leur sélection. Lui a eu l'occasion d'en obtenir un. Et finalement, on voit ça on voit Andy Delors à l'heure actuelle comme un profiteur, dans le sens où déjà que l'Afrique n'est pas respectée avec cette CAN qui se joue en plein milieu de la saison en règle générale. Il y a pas les championnats ne sont pas arrêtés, alors que là la Coupe du Monde est arrêtée, même si ça concerne plus d'équipes.
Ouais, plus de nations.
En plus de ça, voilà, on sait comment ça s'est passé. Belmadi, ça reste quand même un homme avant d'être un sélectionneur, et il aime bien qu'on vienne lui parler directement. Andy Delors est passé par le levier des médias, ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas du tout de l'équipe de la sélection algérienne, à mon sens. En plus de ça, il y a des excuses qui ne paraissent vraiment pas du tout sincères. On a l'impression que c'est politique, et je pense à 99% que c'est politique. Maintenant, à l'heure actuelle, l'Algérie ne s'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Il y a la CAN qui arrive. Pour moi, on voit encore quelqu'un comme Islam Slimani qui est encore très performant. Et je préfère voir des joueurs qui ont l'amour du maillot et découvrir des nouveaux talents du pays, que ce soit directement dans le championnat local ou au Maghreb, que plutôt quelqu'un qui n'a pas l'amour du maillot et qui, on le sait, n'a plus envie de venir et consomme, en fait, c'est cette équipe. Qui aujourd'hui connaît Amoura, qui est l'attaquant qui joue à Lugano, qui était à Sétif, si je me trompe pas, avant. Ouais. Je préfère donner la chance à ce jeune joueur qui est né en 2000, ouais, pour qu'il s'acclimate, pour que potentiellement ça devienne une vraie doublure et que quand Slimani s'arrête, on le prenne plutôt que lui. Et Bagdad Bounedjah, qui a été critiqué, ça a été très compliqué. Mais il a eu un apport très important pour la sélection algérienne. Donc, certes, il joue au Qatar. Certes, c'est peut-être pas le meilleur championnat, mais au moins, il a toujours aimé. On l'a vu pleurer, etc. Chose que Andy Delors n'a pas l'amour du maillot, et c'est la vérité. Ouais. D'où sortent ses origines? Je ne sais pas, mais malheureusement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un consommateur. Et Jamel Belmadi a fait une grosse erreur, même je pense qu'il n'est pas le seul décisionnaire.
D'accord avec Rafik, alors. Ouais, Yacine. Alors, Yacine, il est bien.
Je suis pas d'accord avec Abdel.
Ouais, alors pourquoi
il dit, Belmadi n'est pas décisionnaire, ça, c'est une de question.
Non, le seul décisionnaire.
C'est lui le seul décisionnaire. Il y a lui qui décide au niveau de la sélection algérienne.
Il y en a qui sont contre.
Il décide à sa place.
Ouais.
Et après, la gestion du cas de l'or, quand on parle aujourd'hui, on peut raconter ce qu'on veut. Hein. Aujourd'hui, Julien Fournier, pourquoi il n'a pas parlé le moment où il a fait signer le contrat à Delors à l'époque, où il disait, puisque Delors avait déclaré que c'était pour les raisons qu'il avait invoquées pour son entraîneur, c'était des raisons familiales et rien d'autre. Moi, je ne comprends pas le timing. Julien Fournier quitte Nice, il fait la déclaration sur Delors. Pour quelle raison? Parce qu'il est revenu en sélection. Si Belmadi a décidé de le faire revenir, c'est qu'il a ses raisons. C'est lui l'unique décideur de l'équipe nationale d'Algérie. Personne, ni les radios françaises, ni les télés françaises, ne décident qui va venir ou pas en sélection.
En tout cas, c'est la foumale selon certains supporters.
Il ne peut pas avoir un avis. Ça ne concerne pas.
Alors, les amoureux du maillot algérien. Yacine, quand même.
Mais personne ne doit intervenir dans les choix de Belmadi.
Ah non, Belmadi.
Alors, ça c'est Yacine qui le dit.
S'il a pris la décision de faire revenir Delors, ça veut dire il est pourquoi. Parce que dans le contexte où Delors à l'époque, je ne suis pas là son avocat, Delors à l'époque où il, entre parenthèses, mettre entre parenthèses la sélection nationale algérienne, il faut savoir qu'il était le numéro 4 dans la hiérarchie de Belmadi. Alors pour lui, être numéro 4 et partir en sélection algérienne, tout en sachant que peut-être que même Belmadi ne l'aurait pas pris dans la liste des 24. Il n'y a personne qui sait, il n'y a que lui, il n'y a que Belmadi qui sait. Est-ce que Delors aurait été avec lui à la CAN ou pas. Après, ce qui est suivi, ces excuses et tout ça, c'est là où l'erreur a été faite par tout le monde. Parce que c'est sur le plan de communication, ça a été géré comme des amateurs. On a l'impression qu'il n'y a pas de service de communication, qu'il n'y a rien. Moi, je trouve, c'est là où, pour moi, le retour de Delors, ça a été ce cinéma de le faire parler, de se présenter ses excuses.
Ouais.
T'as fait une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec Belaïli, avec le cas Belaïli aussi. Peut-être que c'est des gens qui sont très mal conseillés. Voilà.
Peut-être.
À un moment donné, même en France, même au Brésil, même en Chine, même, ça arrive. Aujourd'hui, Delors, il peut postuler à une place sans être sûr que le prochain stage, il sera là. Parce qu'on a vu la grille de match. Les deux matchs, la sélection algérienne, il lui a donné sa chance premier match en tant que titulaire. Absolument, il n'a rien
proposé,
montré. Et Slimani, il rentre, il marque. Donc, dans la hiérarchie, toujours Slimani reste en haut. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont s'affirmer. Rien ne dit que Delors sera là au prochain stage.
Merci, Yacine. Rafik, Vida et Abdel.
Pour moi, c'est...
On écoute.
On sait qu'ils ont gagné on sait que Andy Delors a gagné un titre avec la sélection algérienne, mais pour moi, il s'est jamais vraiment intégré dans cette équipe tellement le lap.
Il a gagné un titre par accident.
Non, mais alors justement, je termine mon propos. C'est vrai que du coup, pour moi, avec la situation qui a suivi, il a pas pu s'intégrer. Justement, et c'est très compliqué quand à l'heure actuelle, t'as des joueurs dans ton équipe, tu joues avec Youssef Attal qui est un international, Hichem Boudaoui qui est un international. Ça veut dire que c'est des gens qui eux.
Brahimi qui est international.
Brahimi aussi qui est arrivé. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est très compliqué de voir, entre guillemets, un compatriote se dire, mais nous on y va, on est prêt à se tuer, on fait des performances pour aller rejoindre notre sélection, et toi tu déclines alors que tu sais même pas si tu vas être pris ou je ne sais quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage de la part d'Andy Delors. Et maintenant, voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été plus performant que ça pour qu'on puisse lui redonner une carte, pour moi.
Allez, merci Abdel. On va avoir le temps pour revenir, on espère, après, au cours de cette émission, sur le cas d'Andy Delors et aussi la Ligue 1 Uber Eats. Sans oublier notre invité. Restez à l'écoute de Beurre FM. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 17 minutes en ce jeudi soir, toujours en compagnie d'Abdel, Yacine, sans oublier Vivien et notre Rafik, voilà, pour parler de l'actualité sportive, voilà, sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. On nous écoute du côté de Nîmes ou encore à l'Est, le 104.6, et sans oublier aussi Valence avec le 107 FM. Voilà, rien de plus simple. Pour écouter écoutez vos podcasts de toutes vos émissions préférées sur Beurre FM, eh ben vous vous connectez ou même sur l'application beurrefm.net. Voilà, vous la téléchargez pour tout avoir. Allez, place à l'invité de ce soir cette fois-ci.
Time Sport. The special one, the special
et
one.
Ce soir, nous sommes avec Arthur Guérin-Boueri, champion du monde d'apnée. Bonsoir, rebonsoir Arthur, comment
Salut.
Ça va?
Ça va nickel.
Ah ben justement Arthur, est-ce qu'on peut en parler de cette apnée dynamique aussi qui connaît actuellement un engouement assez réel quand même à travers le pays, mais même à l'échelle mondiale.
C'est vrai.
On peut le dire de cette façon-là.
C'est un sport qui explose.
Ouais. Et justement.
Ouais, depuis ça fait 15 ans, 15-20 ans que c'est un sport qui explose complètement. C'est un sport qui était à la base réservé un peu à une élite de
plongeurs,
voilà, qui veulent garder le niveau, on va dire, en s'entraînant dur, en piscine, machin. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un sport un peu bien-être, accessible à tous, qui fait fureur un peu partout en France, et pas que en mer, hein, on s'entraîne beaucoup.
Ouais.
Aussi,
en piscine.
Paris, par exemple.
Oui. À Paris, on accueille beaucoup d'apnéistes.
Il n'y a plus une piscine à Paris où il n'y a pas un club d'apnée maintenant.
Ah, oui, carrément. Voilà, ça c'est bon à savoir parce que des fois on se dit que c'est qu'en mer. Excusez-moi, mais on voit un peu ce qui était le Grand Bleu de ce fameux film de Luc Besson. Oui. Et Jacques Mayol, on se souvient.
Pas entre Nice et Marseille. Donc,
bien sûr. Non, mais c'est bien, il faut le rappeler, Arthur. Et faudrait s'adapter. On s'est adapté justement, mais on y pense. Et voilà, c'est bien de balancer cette info sur l'antenne de Beurre FM qu'on peut le faire aussi dans des piscines, que ça soit sur Paris
deux
ou même.
Deux grosses catégories en gros, c'est soit la profondeur en mer,
aussi,
soit la distance en piscine. Du coup, en bassin, ça se fait plutôt en bassin. Et moi, récemment, ces trois dernières années, j'ai fait un truc un peu plus original. J'ai été faire de la distance, effectivement, mais en lac gelé sous la glace pour faire des.
Et ça c'est incroyable.
Alors moi je pratique toutes les formes d'apnée, hein. J'adore aller en mer, j'adore faire de la profondeur, j'adore faire de la distance en bassin, ce que j'ai beaucoup fait au début de ma carrière, c'est là que j'ai eu mes records. Mais là, ces trois dernières années, voilà, je me suis vraiment focus sur de l'eau glacée, sous la glace, avec et sans combi. Voilà.
Tu vois, Yacine, c'est pas rien. Abdel, on l'écoute, Abdel, oui. Avec Rafik, allez, réaction.
Deux questions. La première, c'est comment on décide de se professionnaliser dans cet exercice? Ouais. Et vous parliez justement du fait que c'est en expansion depuis 15-20 ans. Ouais. Comment on fait justement pour faire connaître ce sport-là à l'échelle mondiale?
Ma première question, comment on se professionnalise là-dedans, c'est une bonne question. C'est pas du foot, c'est sûr.
Ouais.
Il y a pas de réelle professionnalisation dans un sport comme l'apnée. C'est comme plein de sports. On gagne pas sa vie en faisant du tir à l'arc. On gagne pas sa vie en faisant de l'escalade. Très quelques individus seulement. Enfin, c'est très rare. Donc en fait, c'est exactement pareil dans l'apnée. On ne gagne pas sa vie en faisant de la compétition en apnée. Il faut d'abord faire de la compétition en apnée pour se faire une légitimité dans le milieu. Que ce soit d'ailleurs en profondeur ou en distance ou autre. Et ensuite, une fois qu'on a les titres et les records, il faut capitaliser là-dessus en s'éloignant un petit peu de la compétition et en développant des activités à côté qui vont être des activités, par exemple, de conférencier, faire des masterclass en entreprise, développer des projets de communication avec des partenaires, travailler avec des marques, des sponsors, etc. Et là, après, ça peut se faire. Mais la compétition en elle-même en apnée n'est pas professionnalisante, si j'ose dire. Il n'y a pas de réelle voie de professionnalisation dans la compétition en apnée.
Et comment ça s'est développé, du coup, en 15-20 ans? Vous parliez de ça juste avant. Comment on fait pour amener à cette échelle-là?
C'est un sport qui a eu beaucoup le vent en poupe dans les années 80 grâce au film Le Grand Bleu.
Ouais.
Beaucoup de gens connaissent.
C'est vrai.
Et la France et l'Italie, à la base, déjà, sont des nations où on pratique l'apnée depuis longtemps. C'est un peu les nations qui ont lancé l'apnée en compétition telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le Grand Bleu a remis un petit coup de boost à tout ça. Et aujourd'hui, grâce notamment aux athlètes français qui s'expriment dans les médias, on a de plus en plus de gens qui sont touchés par cette discipline et qui comprennent en fait que c'est pas du tout un truc inaccessible, mais au contraire, que c'est un sport qui fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Et en fait, aujourd'hui, les gens viennent s'inscrire dans les clubs pour ça, genre sport bien-être. Sport bon pour le corps et l'esprit, parce qu'ils ont lu dans un magazine qu'il y a un champion.
C'est ça.
C'était, tu vois, bon.
Exactement,
en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout des gens qui sont plongeurs ou nageurs, etc. Il y a monsieur et madame tout le monde qui viennent dans les clubs d'apnée parce que le tai chi, ils ont essayé, le yoga, pareil.
Aussi.
Ils viennent faire de l'apnée.
Voilà.
Parce qu'ils ont lu que c'était, pareil, qu'il y avait des vertus.
C'est bénéfique. Ouais.
Merci.
Allez, Rafik, il y a pas mal de monde qui nous écoute ce soir. On a beaucoup de réactions. Vas-y, Rafik.
Deux questions. La première,
comment tu prépares une compétition en termes de timing et de timeline, comment tu la prépares. Et la deuxième, qu'est-ce que les boîtes, les entreprises viennent chercher au niveau de justement des conférences et tout, quelles sont les choses que tu mets en avant, quoi.
Première question, comment on se prépare sur une grosse performance? En faisant beaucoup d'apnée d'abord. Ça passe par des entraînements. Alors je vais prendre l'exemple par exemple de mes derniers records sous la glace, qui est l'exemple le plus complet, parce que c'est il y a aussi de l'acclimatation au froid, puis c'est très récent, donc c'est un peu d'actualité. Donc en gros, il y a beaucoup d'apnée. En l'occurrence, c'était de l'apnée en distance, donc je me suis entraîné en bassin pour travailler la distance en apnée, et non pas en profondeur comme je pourrais le faire en mer chez moi à Nice par exemple. Là, c'était vraiment une spécifique distance à l'horizontale, donc beaucoup d'apnée en piscine, apnée dynamique, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que c'est des séances d'une heure et demie, trois fois par semaine, où on va enchaîner les exercices d'apnée dynamique, donc en nageant. Avec ça, beaucoup de préparation physique, donc musculation ou cardio. Ça va être une ou deux fois par semaine. Et à côté de ça, pendant trois ans, tous les hivers, trois à quatre fois par semaine, des séances d'acclimatation à l'eau froide, où je vais aller me baigner tout simplement dans de l'eau froide qui va être en fonction de la période entre 3 et 6-7 degrés. Et je vais rester 10-15 minutes dedans à chaque fois. Je fais ça 3-4 fois par semaine, mais sans faire d'apnée. C'est vraiment pour l'acclimatation au froid. Et après, plus l'échéance se rapproche, plus je vais faire ce qu'on appelle du spécifique, comme dans tous les sports. Et c'est-à-dire, en fait, je vais faire de plus en plus d'apnée dans de l'eau très froide pour au final que mon corps soit parfaitement acclimaté à l'exercice et que j'arrive le jour J sur la glace du lac gelé au Canada parfaitement préparé pour pouvoir faire ce record. Et en l'occurrence, le dernier était un record de distance sans combinaison sous la glace, où j'ai fait 105 mètres à la brasse, donc sous la glace, dans la gelée.
Incroyable. Vivien pourra le faire, on peut-être. Alors, Vivien, réaction. Et on en réussit, Yacine.
Il y avait une deuxième question.
Oui, deuxième question. Alors, désolé, deuxième question. Allez, Rafik.
C'était sur les axes. En fait.
Alors,
sur les axes.
Du coup, en entreprise, aujourd'hui. Effectivement, c'est toute une partie de mon activité, c'est de développer cet aspect partage-transmission que je fais beaucoup en entreprise. On fait appel à moi sur des conférences en management, par exemple, sur la gestion du stress, la peur de l'échec, la prise de risque, le courage, tu vois, ce genre de choses. Et aussi beaucoup d'interventions en entreprise sur de l'atelier pratique, où je vais apprendre aux gens, à travers des exercices de respiration, à avoir quelques exercices clés pour pouvoir gérer leur stress au quotidien de manière efficace et être moins, en tout cas moins impacté par ce stress qui peut être handicapant souvent dans la vie des employés.
Est-ce que vous avez été sollicité par d'autres sports qui génèrent énormément de stress?
Bien sûr, bien sûr.
La préparation de haut niveau, par exemple, là, l'équipe de France, elle va préparer la phase finale de Coupe du Monde.
L'apnée est un sport ultra complémentaire pour tous les autres sports, sauf pour les sports, on va dire, d'anaérobie à lactique, comme on a vu, c'est-à-dire tout ce qui est sprint, tout ce qui est très explosif sur une très courte durée, donc ça concerne très très peu de sports en réalité, mais pour tout ce qui va être demi-fond, fond, lactique, en fait, énormément de sports, l'apnée peut avoir des impacts très intéressants au niveau du transport de l'oxygène, au niveau de la tolérance au CO2, de la tolérance au lactique. Donc en fait, l'apnée, intégrer des phases d'apnée dans la préparation physique des sportifs, quel que soit le sport, va être bénéfique sur pas mal d'aspects. Et en fait, de plus en plus.
Il y a quelques entraîneurs aujourd'hui de très haut niveau qui sont en train de travailler cet aspect de l'apnée.
J'ai été contacté moi j'habite à Nice, donc
Les Aiglons, les Niçois. Voilà,
alors j'ai pas encore travaillé avec l'OGC, mais je sais que voilà, je connais.
On en parle beaucoup en ce moment.
Gravite autour du club et j'ai déjà eu des discussions intéressantes. Donc pourquoi pas d'ailleurs.
Il y a même un très très grand club européen qui a travaillé énormément sur ça.
J'ignorais. Ouais. Moi, je sais que
pourquoi pas ce soir,
si
nous écoute.
Intégrer ça dans sa préparation. Voilà, il voulait complètement changer le mode de préparation.
Arthur Guérin-Boiré, il est avec nous ce soir, champion du monde d'apnée, on le rappelle. Pourquoi
d'ailleurs,
pas
peut-être qu'un jour, vous serez appelé à travailler ensemble.
Pourquoi pas? Moi, je sais que là, j'ai eu des discussions.
Tu verrais, toi, Neymar ou Mbappé faire de l'apnée comme ça?
Pourquoi pas?
Descendre?
Pourquoi pas?
Il faut être assez costaud.
Pourquoi pas? Courir.
Alors, moi, ce que je propose quand je travaille avec les sportifs, c'est surtout des séances d'apnée pas dans l'eau. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les tapis de yoga, respiration, apnée, ou intégrer même des phases d'apnée dans leur préparation physique, en musculation par exemple, ou en course à pied. C'est vraiment des trucs très spécifiques, mais qui leur ressemblent à eux. C'est pas moi les amener en mer dans un truc où ils vont pas être à l'aise. C'est amener mon sport dans leur préparation.
Exactement,
c'est
dans leur univers.
C'est ça qui est intéressant. Et là, sur l'OGC Nice, sur l'AS Monaco, etc., il y a eu des discussions peut-être où on va développer des trucs. C'est pas encore. Voilà, j'ai rencontré certaines personnes.
On vous le souhaite en tout cas.
Avec grand plaisir pour faire partager toutes ces connaissances avec des sportifs. Quel que soit le sport d'ailleurs.
On poursuit avec Vivien. Allez, avec notre invité ce soir, Arthur.
Justement, comment est-ce que tu expliqueras aux auditeurs, par exemple, qu'est-ce qui te permet selon toi d'avoir fait la différence par rapport à d'autres apnéistes? Est-ce que tu penses par exemple qu'il y a un vrai savoir-faire français? Parce qu'on voit que Alice Modolo et toi, je trouve que vous sortez quand même pas mal du lot. Est-ce que tu penses que la France a peut-être quelque chose en plus par rapport aux autres nations?
On a un gros vivier apnée en France, c'est clair, depuis les années 60. Italie-France, hein, c'est vraiment les deux nations mères de l'apnée. En France, on a évidemment Guillaume Néry, on a aujourd'hui Arnaud Gérald, on a Alice Modolo, Pierre Frola, qui est plutôt sur Monaco, Stéphane Mifsud, on a Stéphane Toureau, on a voilà, tout un vivier comme ça d'apnéistes français à très haut niveau qui rayonne vraiment à l'international. Et ça, je pense qu'il y a deux raisons à ça. D'abord, une raison... je dirais qui serait peut-être le rayonnement du Grand Bleu, qui a poussé pas mal de gens.
L'histoire de Jacques Mayol.
Exactement.
Alors, justement. Et peut-être pour vous aussi.
Ça peut paraître un peu farfelu, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Le film a eu un impact et a rayonné beaucoup.
Pas faux.
Et il y a aussi une raison historique qui est que l'apnée sportive moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc avant le film, a commencé aussi en France. Non, c'était des chasseurs sous-marins, des nageurs de combat qui ont commencé dans l'armée, qui ont commencé aussi à essayer de suivre un peu la bourre pour voir qui c'est qui descendait le plus profond, etc. Et l'apnée sportive moderne est née en France et en Italie. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a un historique en France et qu'on a aussi donc une durée qui a fait qu'on a pu aussi affiner nos techniques d'entraînement, de coaching, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est effectivement une des bonnes nations à l'international, mais il y a plein de nations émergentes qui cartonnent. On a beaucoup de.
Faut faire attention alors.
Dans les pays
faut toujours évoluer.
En Pologne, en République Tchèque, en Croatie, en Russie, qui cartonnent, en Amérique du Sud aussi.
Même en Afrique du Nord.
En Afrique du Nord, on a Walid Boudiaf qui cartonne en profondeur.
Aussi.
On a beaucoup de nations qui émergent.
Dans les années 80, il y a un nageur d'origine algérienne qui est surnommé Mohamed Leblanc. Il s'appelle Mohamed Leblanc, très très connu sur le port de Marseille. C'était l'un des meilleurs plongeurs.
Ouais.
Et malheureusement, il a fait un accident très grave.
En plongée,
oui. Donc aujourd'hui, il est pratiquement tétraplégique. Et je sais qu'en Algérie, dans les années 70-80, il y avait des super, super plongeurs.
Bien sûr.
Voilà. C'était même.
Toujours.
Même dans les années 50-60.
Bien sûr, c'est une culture.
Dans le bassin méditerranéen, surtout avant, il y avait la réparation navale.
Bien sûr.
Donc beaucoup de plongeurs sont issus de...
Beaucoup de plongeurs viennent en fait soit de travaux comme ça sous-marins ou même de la chasse sous-marine, où il y a beaucoup de gens qui bossent comme ça en apnée ou qui chassent en apnée, qui sont venus à l'apnée sportive.
C'est ça.
Et qui avant faisaient
aussi de... Mais dès l'enfance,
exactement avec ça.
Dès l'enfance.
Exactement.
Oui, c'est ça, dès l'enfance. En tout cas, moi, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est vrai. Moi, un papa docker, et on apprenait à faire justement cette apnée. Okay. Et avec mon cousin, c'est vrai que justement, c'était un concours en fait que l'on avait, moi avec mes cousins, du côté par exemple de la Vesse ou encore de Niolan, et on descendait, lui qui restait le plus longtemps.
Exactement.
Voilà, c'est ça.
Malheureusement, à l'époque, il y avait.
Et ça, on a appris parce qu'on a pas mal. C'est vrai, les accidents, Yacine. Faut faire attention, mais on a pas mal.
L'apnée, jamais seul.
Ouais, jamais.
Je tiens à le dire. Jamais.
C'est vrai, Arthur.
Toujours avec quelqu'un. Qui surveille et surtout, alors même dans sa baignoire. Hein.
D'ailleurs, puisqu'on parle de plongée Bilal, j'aimerais bien rendre hommage à quelqu'un aussi qui est un très, très grand plongeur. Il s'appelle Abdelkrim.
Ouais.
Il habite à la rue Mulhouse à Alger.
Ouais.
Franchement,
c'est
l'un des meilleurs de sa génération.
Ouais.
Voilà. Donc lui, il était spécialisé, il avait une société de réparation navale,
mais
il plongeait aussi sportivement. Voilà, c'est exceptionnel. Alors, il a été entraîné par un Français. C'est incroyable ce qu'il faisait. Je pense qu'à son époque, c'était l'un des meilleurs du monde.
Le bien-être est sous l'eau. C'est un magnifique ouvrage d'Arthur Guérin-Boiry, champion du monde d'apnée aux éditions Genèse. Avec Vivien, avant de terminer cette magnifique interview.
Alors, ton dernier titre champion du monde, il date de 2016. Est-ce que tu aimerais gagner un quatrième titre de champion du monde? Et après, nos auditeurs vont se demander aussi, si on prend par exemple ta dernière performance, comment est-ce que tu fais pour gérer le stress, sachant que dans beaucoup de sports, justement, il faut plutôt respirer pour gérer ça. Quelle est ton attitude quand tu es un petit peu dans le dur, on va dire au milieu d'une grande apnée?
Alors, première question, un nouveau titre, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'en ai eu 5 au total entre 2013 et 2016 dans différentes disciplines. Un sixième, pour l'instant, non. Là, ces trois dernières années, j'ai organisé des tentatives de records, mais qui n'étaient pas dans le cadre de championnat du monde. C'est pour ça que j'ai eu des records qui étaient hors championnat du monde et qui sont. C'est pour ça que j'ai 8 records et que 5 titres. C'est parce qu'on peut avoir des records en dehors des titres. Il suffit d'organiser les trucs dans son coin, avoir un juge international et on peut valider un record sans forcément être dans le cadre d'une compétition internationale. Donc pour répondre à ta question, pour l'instant non, je suis plus sur des projets de transmission, de sensibilisation, développer aussi l'aspect entreprise, projet de communication avec mes partenaires, je suis plus là-dedans. Mais pourquoi pas, d'ici 2-3 ans, me remettre sur un objectif en compétition internationale, ça peut être quelque chose, mais plutôt je pense peut-être en profondeur alors à ce moment-là et moins en distance à l'horizontale. Et deuxième question que tu as posée, gestion du stress, bah en réalité effectivement on a besoin de respirer pour gérer son stress, mais en fait apprendre à ne pas respirer, c'est apprendre à bien respirer sur des apnées longues, en tout cas en compétition. Il y a toute une phase préparatoire. Je parle pas des années qui précèdent où on apprend tout ça, mais je parle vraiment de la phase avant la compétition, avant la performance, où pendant une heure et demie, je vais être allongé à faire des exercices de respiration, de relaxation, de concentration, qui vont me mettre dans les meilleures dispositions pour retenir ma respiration après, justement.
On a beaucoup de personnes. On va terminer l'interview. Où peut-on vous retrouver? On a Léna, on a aussi Toby, on a Zerine qui nous demande de cela, et aussi Nacera.
Instagram, voilà. C'est là
on
que
peut
je
suivre. Notre invité de ce soir,
j'ai une grosse communauté algérienne qui me suit.
Ouais, ben voilà.
Je suis un peu
fan. Un plaisir à Yacine, ça.
Avec Soul King.
Ouais.
Et du coup, le jour où il a commencé à me suivre sur Insta,
ouais,
j'ai la moitié d'Alger qui est venu me suivre.
Mais ils attendent une démonstration.
C'est voilà. Sûr que c'est vrai.
Ouais, ben pourquoi pas.
J'ai une communauté algérienne qui m'a suivi.
Peut-être.
Ah ben c'est pas mal.
De vos activités, organiser peut-être un petit concours ou
voilà.
Yacine
le mettra. Voilà.
Bien sûr.
C'est lui qui va mettre en place cela. Pourquoi pas aider Arthur à cela.
Ça peut parce qu'il y a beaucoup d'adeptes de
plongée. On le sait bien.
Malheureusement, des fois.
On ne sait bien.
Ils ne savent pas avec qui fonctionner.
Ouais. Un grand merci, Arthur, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM pour cette première.
Très sympa.
Nous aussi. Allez, on va marquer d'une courte pause avant de revenir avec les pépites du football et aussi la Ligue 1 Uber Eats. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport ce jeudi 29 septembre, 20h38. Si vous venez de nous rejoindre, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour réagir, c'est le 01 53 48 3000, rien de plus simple. Foudil se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM, toujours à l'écoute de la radio de la diversité. Allez, place aux pépites du football.
Time Sport. La chronique à la source.
Alors Abdel, on t'écoute.
Ouais, ben une nouvelle fois bonsoir. Donc c'est l'épisode 4 de cette fameuse chronique. Donc ce soir, je vais vous présenter Badreddine Bouanani. Alors son parcours, il a été formé au LOSC avant de partir cet été du côté de Nice où il a signé son premier contrat professionnel. C'est un joueur qui est sélectionné aussi régulièrement en équipe de France de jeunes, avec qui il a gagné notamment les Jeux méditerranéens cet été. Alors, joueur gaucher, c'est le premier qu'on fait depuis le début des chroniques. Donc on sait que les gauchers ont ce petit quelque chose en plus. Techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Quand je dis au-dessus de la moyenne, je parle de technique pure de footballeur. Ça veut dire dans le contrôle, dans la passe et dans la conduite de balle. Il fait tout plus vite que les autres et surtout il le fait avec intensité. Donc ça lui permet à l'heure actuelle de ne pas être trop mis en difficulté par le changement entre le championnat jeune et le championnat senior. Il évolue en N3 à Nice, qui est l'équipe réserve. Il a déjà mis 4 buts en 3 matchs et il s'était déjà montré très intéressant en match de préparation avec les pros avec Nice. C'est le joueur qu'on aime bien voir dans le sens où il amène beaucoup de percussions balle au pied. Il peut venir pendant 90 minutes t'embêter, chercher le duel pour venir faire la différence. Après, quelqu'un qui a une grosse intelligence de jeu, qui est capable aussi de venir combiner avec son attaquant ou ses milieux de terrain. Son poste préférentiel, c'est plutôt couloir droit pour justement rentrer, ou alors dans le cœur du jeu, numéro 10. C'est quelqu'un qui est capable de faire des différences, comme je disais, par la percussion, mais aussi par la passe, que ce soit du jeu court ou du jeu long. C'est vraiment quelque chose qui sort vraiment bien chez lui. Ce qui a, on parle souvent aussi de d'entourage dans l'émission, et c'est quelqu'un qui a quand même un entourage qui est présent et qui l'aide à prendre les bonnes décisions malgré son ambition, malgré le fait qu'il ait envie de faire de très grandes choses. De temps en temps, il faut savoir être recadré, et c'est le cas avec les personnes qui l'entourent. Après, voilà, comme souvent, on va parler des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, c'est son pied droit. C'est vrai que souvent les gauchers ont un peu du mal à utiliser leur pied droit, mais c'est quelqu'un qui est travailleur, donc il bosse dessus. Et après, voilà, faut, pour l'exigence du haut niveau, ce qui est important, c'est surtout de jouer quand aussi tu n'as pas le ballon. Lui, il a tendance encore à, parce qu'il est encore jeune, il va bientôt avoir 18 ans. Il joue quand il a le ballon, mais quand il ne l'a pas le ballon, justement, les efforts défensifs sont pas forcément faits, ou alors ne sont pas faits à haute intensité, ce qui peut encore lui mettre cette barrière pour peut-être faire des rentrées avec le groupe professionnel. En tout cas, voilà, c'est Boanani, je le répète, et c'est un joueur à suivre, parce que franchement, il est pétri de talent et il a un grand avenir devant lui, je pense.
Boanani, merci Abdel pour toutes ces infos concernant cette fameuse chronique sur ces pépites du football. Et la dernière rubrique avec la Ligue 1 Uber Eats.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, nos joueurs sont-ils prêts justement ou fatigués avant ce fameux mondial, et quelle dynamique aussi on pourra retrouver de ces clubs français avant ce retour sur cette fameuse scène européenne, ces fameuses coupes européennes. Rafik.
Alors ça commence vendredi soir avec le déplacement de Marseille à Angers. Les Marseillais ont eu une coupure, donc une trêve internationale, avec très peu de joueurs concernés. Donc on avait eu des périodes avant la trêve internationale avec un coup de mou et des performances sur la scène européenne qui n'étaient pas du tout au rendez-vous. On espère qu'Igor Tudor a pu régénérer son groupe. Ils ont un rendez-vous important en Ligue 1, mais le plus important pour moi, c'est en milieu de semaine
face à Marseille. Hein.
Pas le droit à l'erreur. Malheureusement, ils n'auront pas l'appui du public, ils se mangent un huis clos.
Oui.
Et on va voir s'ils ont les ressources mentales pour passer cet handicap-là et être présents pour mercredi. C'est une belle préparation parce que tu as Angers qui est en grosse difficulté, qui doit engranger des points. Donc là, c'est un bon round de, entre guillemets, de préparation pour
l'arrivée. Yassine, alors on écoute.
Ce qui dit sur Angers, c'est que à défense de Paris, ils ont quand même trois internationaux qui ont fait les matchs la trêve d'ailleurs, qui ont flambé avec leur sélection, à l'image de Ben Taleb qui fait son retour en sélection algérienne, où il a été pratiquement le meilleur sur le premier match, et il a fait une rentrée fracassante au deuxième match. Et après Marseille à Angers, tous les deux ont besoin de points, hein. Marseille aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à l'erreur pour y aller. Je vais peut-être titiller un petit peu le PSG. Et Angers, les deux derniers matchs, quand même, ils se sont un peu réveillés. Et vous retrouvez des joueurs en super forme, surtout le jeune marocain Ounaï.
Asdine Ounaï, ouais.
C'est exceptionnel. Moi, je l'ai vu contre le Chili. C'est un phénomène. Hein. Ça va être un des phénomènes de. D'ailleurs, c'est un joueur dont on ne parlait pas du tout. Mais là, il s'affirme comme vraiment un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 en France. Il n'y a pas de doute. Après. Une trêve ne fait jamais de mal pour un entraîneur. Ils ont travaillé. C'est des clubs de très haut niveau, donc ils sont obligés de gérer. Ils savent qu'ils ont la reprise tout de suite. Et là, maintenant, ils vont enchaîner à un mois et demi de la Coupe du Monde. Ça va être un parcours.
Deux matchs par semaine.
Ouais. Ça va être deux matchs. Ça va être même pour Marseille, ça va être trois matchs. Donc quand ils jouent les
beaucoup trop de matchs, c'est ça.
Voilà. Donc celui qui va durer, c'est celui qui saura trouver la bonne osmose dans la préparation.
Ouais, surtout la combinaison.
Il faut aussi une bonne profondeur dans l'effectif aussi.
Et les bons choix d'effectifs de 11, voilà. Tout va être important.
Mais alors, Abdel, si on se focalise sur Paris et Marseille, qui sont les deux premières équipes de notre championnat, c'est vrai que Marseille, comme l'a dit Rafik, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus appelés en sélection, ou alors qui n'ont pas été sélectionnés tout simplement. Donc on va dire que le choix est un peu plus évident, parce que tu peux avoir ce turnover contre Angers, certes qui est une équipe en difficulté, mais il reste quand même de la qualité quand tu fais ton turnover chez Igor Tudor. Et il y a ce match à ne pas louper en Ligue des Champions face au Sporting qui a déjà 6 points et qui est quand même très en avant sur ce groupe.
Et tu le joues à huis clos.
C'est ça, qui pour moi pouvait être une arme pour Marseille d'avoir ses supporters, mais malheureusement, toujours la bêtise. Pour revenir au PSG, il y a eu la conférence de presse tout à l'heure de Christophe Galtier qui a dit qu'il avait regardé énormément les matchs de ses joueurs partis en sélection. J'ai beaucoup de mal à le voir faire un turnover complet sur son équipe, dans le sens où il a quand même, on va répéter, mais quand même devant entre Neymar, Mbappé, Messi et d'autres joueurs, parce que Vitinha est concerné aussi, Nuno Mendes ou encore Marquinhos, sont des joueurs qui ont la Coupe du Monde bientôt, qui sont quand même avec leur sélection.
Ce qui est bien pour le PSG, que les matchs du Brésil se sont joués en France.
C'est vrai. Sinon Neymar par exemple ou Marquinhos ne serait pas encore revenu. Et pour compléter,
j'aimerais qu'il complète aussi, Vivien.
C'est vrai que potentiellement les joueurs comme ça ont besoin de rythme, et il y a toujours une discussion avec le coach qui fait que quand il veut faire un turnover, il y a cette compréhension, cette communication qui fait que finalement il y a pas tant de changements que ça dans le 11 de départ, comme le Paris affronte Nice en plus, et on sait que avec ce qui vient de se passer, potentiellement t'as envie de mettre la meilleure équipe pour les battre.
Alors, Vivien, c'est comme français.
Clairement, ce qui va être important pour moi, c'est la gestion des coachs, la gestion des effectifs. Après, faut pas oublier, il y a quand même 5 changements. Heureusement qu'il y a 5 changements depuis 2020, parce que je pense que ça aurait été très dur.
Ça aide beaucoup les clubs, surtout qui n'ont pas une profondeur de banc.
Exactement. Ça aurait été très dur, notamment pour Marseille. Et l'avantage quand même que Paris a par rapport à Marseille, c'est qu'en Ligue des Champions, leur situation est bonne. Ils sont à 6 points, alors que là, l'OM est déjà dans le rush pour éviter la 4e place. Et c'est pour ça que moi, ça me fait peur, cet enchaînement de matchs que vous avez décrit pour l'OM, parce que il y aura même des semaines à 3 matchs en 7 jours, en 8 jours. Et c'est là où, oui, la défaite de la deuxième journée à domicile, elle risque d'être fatale.
De toute façon, chaque point, il aura son pesant d'or à la fin de saison.
Même pas pour la deuxième place, mais même pour la troisième place, c'est ça. Qui pour moi est accessible. Pour moi, l'OM a ce qu'il faut pour au moins éviter la 4e place.
Oui, mais quand on voit un joueur comme Bamba Dieng, que le club pratiquement
ils sont obligés de recruter.
Les tricards,
ils sont obligés de recruter.
C'est incroyable. On comprend.
Tu perds Cédric Bakambu. T'as une solution en moins dans ton effectif. T'as un Luis Suarez qui est pas du tout au niveau des exigences et du.
Peut-être qu'il lui faut un petit peu un temps d'adaptation aussi, attention, parce que chaque joueur, il a besoin de temps. Messi, il lui a fallu un an pour s'adapter au championnat de France.
Il a montré par le passé qu'il avait les capacités pour s'installer et percer. C'est un jeune profil avec des capacités.
Bamba Dieng. C'est pour moi, c'est le numéro un. Après,
il faut qu'il
on n'est pas Tudor, on n'est pas chacun fait.
Après Tudor, c'est pas quelqu'un de rancunier.
C'est quelqu'un très pragmatique. Si tu dors, il faut te réveiller à un moment donné.
Mais pour compléter, c'est vrai que cette trêve internationale, il y a eu du nouveau dans les effectifs, comme on a dit, des joueurs qui ne sont pas partis en sélection, et ça permet aussi de se roder, de créer du lien et du lien avec les joueurs qui ont peut-être eu moins de temps de jeu pour leur expliquer que voilà. Bon, là j'étais dans une optique où je devais avoir ce 11 ou ces 13, 14 joueurs régulièrement. Là, vous allez rentrer dans la rotation parce que peut-être vous êtes arrivé tard, c'est le cas au PSG. Christophe Galtier a parlé de Carlos Soler ou de Fabian Ruiz, même s'ils sont allés en sélection à contrario. Mais voilà, c'est des joueurs sur lesquels on peut compter parce qu'ils ont eu des semaines d'entraînement dans les pattes avec le collectif. Le fait aussi de retrouver un peu de temps de jeu avec leur sélection, c'est une bouffée d'air frais. C'est aussi se dire, le coach m'a sélectionné avant le dernier rassemblement en Coupe du Monde, donc ça me donne de la confiance pour essayer d'être meilleur à l'entraînement et essayer de continuer à consolider ma place. Donc je pense qu'il va y avoir 3-4 changements selon les effectifs, mais je pense que quand même c'est assez large du côté du PSG et de l'OM. Mais voilà, il faudra pas perdre de points en tout cas pour Marseille qui est l'équipe la plus en difficulté en tout cas en compétition européenne.
Ouais, en difficulté.
À Angers pour Marseille-Angers.
Ouais, Marseille-Angers. Tu aimes bien Angers?
J'aime bien, c'est mon club en France.
Ouais, son club en France.
J'aime bien les clubs avec des petits moyens qui font de très bons résultats.
Ouais.
Tout simplement, c'est un des clubs les plus réguliers avec peut-être le plus petit budget de France. C'est un club qui est très très bien géré. Voilà, donc malgré les difficultés de début de saison, mais je pense qu'ils vont s'en sortir parce que
c'est pas la première fois aussi.
Bah oui, c'est pas la première fois. Ça a été le même scénario que la saison passée. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait des déclarations de Batik concernant le directeur de centre de formation. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que le président a su faire un petit peu. A su remettre tout le monde au travail, dans une bonne ligne. Mais je pense que demain, Angers pourrait créer beaucoup, beaucoup de problèmes à Marseille.
Ok, justement, on a parlé d'Angers. Est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup de problèmes aussi avec cette fameuse Fédération Française de Football, avant ce mondial aussi au Qatar? Allez, il nous reste à peu près 2 minutes. Toi qui aimes bien en rire à chaque fois sur ces fameux problèmes, ne serait-ce dans la planète sport. Vivien, je te regarde. C'est vrai, on entend la Fédération Française de Football. On entend aussi certains propos sur chez nos confrères, par exemple, d'RMC ou d'autres encore. Oui, le monde du sport va mal, Vivien.
Bah, il faut nettoyer. Alors nous, on n'a
pas,
tous les tenants et les aboutissants, mais tous ceux qui sont coupables doivent sauter. Après, nous, on va pas affirmer des choses dont on n'est pas sûr. On veut pas sortir de noms comme ça, mais il faut voir. Il y a des gens qui sont accusés. Il y a eu des enquêtes chez des confrères de certains médias. Donc nous, on suit en public, en privé avec nos contacts. Mais
la justice fait son travail.
C'est ça.
Tous
ceux qui sont coupables doivent sauter.
Il ne faut pas s'inventer investigateur quand on ne l'est pas. Parce que c'est un travail de fond qui demande énormément de temps, énormément de sacrifices pour soulever des choses.
Regarde par exemple, puisque l'information qui est sortie concernant Blayley, il a saccagé sa maison, il y a eu ça. Après, derrière, quand tu vois le groupe des réseaux sociaux qui a sorti l'information, il y a beaucoup de doutes. Alors que lui, aujourd'hui, avant de partir, il a pris une vidéo, il a montré
le certificat.
Voilà, donc on laisse.
Avec toutes les situations là qui ont concerné notamment Diallo, Amraoui, où tout le monde a retourné un peu sa veste, etc., je pense que les gens, ils devraient être un peu plus tempérés dans leurs propos parce que chacun son métier. Il y en a, ils sont spécialistes mercato, il y en a sur l'actualité, il y en a pour l'investigation.
Du journalisme, peut-être.
Sur le dossier Amraoui, comment elle a été traînée dans la boue. Aujourd'hui, tout le monde surfe sur la vague aussi pour dire
les mêmes qui t'enfoncent te défendent après.
C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes qui ont tout dit sur Amraoui. Donc il faut faire attention.
Il faut faire attention, n'est-ce pas? Ouais.
C'est la course aux buzz, et puis c'est symptomatique du journalisme.
Allez, justement, rien faire de la fake news.
Demain, vous retrouverez justement à 10h un certain Karim Zeribi sur l'antenne de Beur FM avec toute son équipe, avec des sujets assez croustillants et des invités de marque. Voilà, nous on se retrouve dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Beur FM pour la dernière de la semaine. Allez, la suite des programmes avec Vanessa qui arrive, 21h, 23h. Un grand big up à Vivien, à Yacine, à Rafik, sans oublier Abdel, et à la réalisation avec Foudil. Bye bye et très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli.